Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Nous nous intéressons à votre bien-être au travail. C'est le credo de Makiba, une start-up toulousaine. Il sera aussi question, vous allez l'entendre, d'intelligence collective et d'expérience du collaborateur. Julie Clément et Franck Taveriti sont nos invités. Alors, dans un monde parfait, nous serions tous épanouis dans notre travail, heureux et en bonne santé, sauf que ce n'est pas toujours si simple. On voit se multiplier les cas de burn-out ou même de bore-out, là où les salariés n'ont pas grand-chose à faire. Mais vous avez trouvé la solution, ou une des solutions. Julie Clément et Franck Taveriti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur, cofondateur, puisque vous êtes trois dans l'entreprise de Makiba. C'est une entreprise toulousaine. Que proposez-vous concrètement? On a bien compris, il est question de bien-être. Mais quel type de bien-être? Mental, physique ou les deux? Qui commence? Julie, peut-être.
Alors, nous, on ne parle pas de bien-être, ouais. Déjà. On parle d'expérience collaborateur. Mm-hmm. On va au-delà du bien-être, qu'il soit physique ou mental. On estime que pour s'épanouir dans sa vie professionnelle, un collaborateur doit vivre au travail une expérience satisfaisante.
D'accord, comme une expérience de voyage, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, comme un voyage, nous, c'est comme ça qu'on l'a modélisé. Avant de voyager, on s'intéresse à la compagnie. Mais là, c'est la même chose. Avant de rentrer dans une entreprise, on s'y intéresse. Donc, ça commence à partir de là, l'expérience collaborateur, quelle image on donne à voir à son futur employé, et puis ensuite comment on le recrute, comment on l'accueille en interne, ouais. Et puis comment ça va se passer avec le management, avec la communication interne, etc. En termes de formation, d'accompagnement RH, d'outils, bref, c'est tout un parcours qu'on vit depuis avant de rentrer dans l'entreprise jusqu'au moment où on la quitte.
Alors Franck, c'est-à-dire que vous vous adressez à qui exactement dans votre start-up? Vous vous adressez à l'employé ou à l'employeur?
Alors, on va s'adresser à l'employeur. Ouais. Notre interlocuteur privilégié, ce sont les directions d'entreprise, mm-hmm. De toute taille. Alors, je parle d'entreprise, mais aussi d'organisation. Dans le secteur public, on a les mêmes contraintes que dans le secteur privé. On a des hommes et des femmes qui font les entreprises et les organisations. Et ensuite, notre objectif, c'est d'apporter, comme l'a dit Julie, une nouvelle expérience de travail aux collaborateurs. Donc, c'est de faire bénéficier aux collaborateurs d'une meilleure expérience de travail pour que ça profite à l'entreprise. On reste sur un volet collectif. Ouais. Et on passe, il y a plusieurs façons d'adresser les problématiques d'attractivité des entreprises, d'engagement des collaborateurs ou de cohésion. Nous, on a décidé de travailler sur ce qu'on appelle le capital humain des entreprises.
Mmh. Ça, c'est important aujourd'hui. On remet l'humain, on le dit, est-ce qu'on le fait vraiment? Ça, c'est une vraie question aussi. Je sais pas, j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus. Est-ce qu'on le fait vraiment? Parce que c'est un petit peu, entre guillemets, un concept tendance. On est d'accord, Julie?
On est d'accord, c'est ultra tendance. Hein. On s'inspire énormément aujourd'hui dans nos entreprises françaises de ce qu'on a vu dans les startups de la Silicon Valley,
voilà,
et même maintenant dans nos startups françaises. Mais c'est vrai que les PME, les PMI, même les ETI veulent, et les grands comptes veulent s'inspirer de ça, ouais, parce qu'ils voient bien que ça marche. Après, évidemment, on ne le fait pas toujours. Effectivement, remettre le capital humain au cœur de la stratégie de l'entreprise. En tout cas, c'est ce que nous, on veut absolument évangéliser et permettre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir plein de bonnes intentions, mais pas nécessairement
agir. Et derrière, oui, Franck.
Si je peux compléter avec une autre approche, parce que c'est tout l'intérêt quand on a monté Makiba, c'est qu'on ait des approches un peu différenciées. Ce n'est pas, pour moi, tendance, mais c'est d'actualité. Mm-hmm. Depuis 20 ans, on a, dans les pays développés, comme la France et comme en Europe, on a travaillé sur l'optimisation des outils de production, des moyens de production, la transition numérique, on en parle depuis très longtemps. Ouais. On a travaillé aussi beaucoup sur ce qu'on appelle l'expérience client. On fait souvent une similitude pour nous entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Le collaborateur est un client interne qu'il faut satisfaire. Pas à tout prix, mais il faut répondre aux attentes et les attentes ont évolué. Donc c'est plutôt d'actualité puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un moyen de développer sa performance, de développer son efficacité, c'est le facteur humain. C'est d'investir sur le capital humain qui peut être, enfin, de notre point de vue, pendant 20 ans, a été un peu oubliée.
C'est ça.
Donc, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est pas un effet de mode.
C'est une prise de conscience.
C'est une prise de conscience parce qu'on a fortement travaillé sur, et c'est une effectivement nécessité. Une nécessité. Donc, certains le font, d'autres vont devoir le faire. Quand je dis ça, c'est parce que il va y avoir une contrainte avec les nouvelles générations de s'adapter.
Ouais, exactement. Parce que la société aussi a changé, parce que c'est vrai que les générations actuelles n'hésitent pas à changer de poste, ce qui ne va pas sans poser de problème, disons-le, pour certaines entreprises.
Tout à fait. Alors, si je peux donner juste deux chiffres, pour les moins de 35 ans, ce sont les seules études qu'on a, donc ça englobe deux générations aujourd'hui, on a 80% des CDI qui ne durent pas un an.
Ouais.
Dont plus de 35% des départs qui sont à l'initiative du collaborateur. Ce qu'on ne constatait pas il y a 10 ou 20
Tout
ans. On attendait plus longtemps de voir si vraiment ce qui a été proposé pendant le recrutement, donc ce qu'on a, souvent on appelle ça la culture d'entreprise, et Julie est une experte sur ces thématiques-là, les valeurs, l'incarnation des valeurs. Avant, on attendait plus longtemps. Aujourd'hui, si on rentre dans l'entreprise et qu'au bout de quelques mois, ce qui nous a été vendu entre guillemets pendant le recrutement ne se concrétise pas pendant l'expérience de travail,
Le collaborateur
ne reste pas.
Ouais, c'est ça. Alors, comment vous abordez une entreprise ? Parce que ça, c'est intéressant. J'allais dire, est-ce que les entreprises viennent vous chercher en disant « Il y a une sorte de problématique chez nous, on n'arrive pas bien à identifier, une sorte de mal-être ou de malaise » Ou est-ce que c'est vous qui allez directement vers les entreprises en proposant une offre, en disant « Voilà, on a examiné votre façon de travailler et on aimerait vous proposer ça et ça. » Quelle est votre démarche ?
Les deux.
Ouais.
On a certaines entreprises qui nous ont contactées parce que effectivement déjà un peu sensibilisées à ces problématiques humaines, elles ont capté qu'on existait ou ont eu notre nom par le réseau, ou bien effectivement il y a d'autres entreprises que nous on adresse directement,
ouais,
en allant les voir en leur disant ben voilà, selon où vous en êtes dans votre taux de turnover ou votre capacité d'attractivité, on peut venir vous aider en vous proposant de travailler sur la problématique de l'expérience collaborateur, ce qui est un angle un peu différent de ce que vous avez peut-être déjà essayé.
Prenons un exemple, Franck. Par exemple, dans la restauration, il y a énormément de turnover, on le sait. C'est difficile de recruter, c'est difficile aussi pour les collaborateurs, parfois, de s'identifier à l'entreprise ou d'y rester. Vous pourriez, vous, intervenir sur ce type de problématique ?
Alors, aujourd'hui, parmi nos clients, effectivement, on n'est pas sur ces secteurs-là, mais on pourrait les adresser dans le sens où notre approche, elle part sur... alors là, on ne peut pas vous le présenter, mais on a développé tout le parcours collaborateur pour identifier toutes les thématiques qui sont abordées et qui sont communes à l'ensemble des entreprises. Ensuite, il y a des spécificités entre le développement informatique, les travaux publics, certains métiers où les gens sont souvent à l'extérieur de l'entreprise, où là, la culture d'entreprise doit être assez forte pour donner envie, lorsqu'on se retrouve, de travailler ensemble. Donc oui, dans le secteur de la restauration, dans le secteur des travaux publics, comme dans le secteur de l'informatique ou de l'industrie, on est capable d'apporter des solutions, mais qui ne seront pas les mêmes.
Oui, bien sûr,
on n'a pas
bien
un
sûr.
Modèle tout prêt où il y a juste à dérouler, mais on a plutôt une approche, un questionnaire au départ qui
des
va
outils,
permettre,
en fait,
voilà, un outil au départ qui va permettre d'identifier l'ensemble de ces sujets. Donc comme l'a dit Julie, la culture d'entreprise, le management, l'évolution, ce qu'on appelle la marque employeur, la capacité des collaborateurs à recommander leur entreprise, c'est quand même un indicateur assez fort, le taux d'engagement, et puis on va récupérer quelques données chez nos clients comme le turnover ou l'absentéisme. Et avec ça, on va être capable de définir quelles sont les actions à réaliser et de les prioriser. Parce que c'est souvent ça l'intérêt, et c'est pour ça qu'on est le plus possible au contact et à l'écoute des collaborateurs, c'est que ce sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin. Et pour y répondre, il faut savoir le prioriser. Et très souvent, lorsqu'on arrive dans une entreprise, la direction a une vision assez partielle des attentes, parce que c'est souvent ce qui va se discuter en réunion ou autour de la machine à café, ce qui est le plus facile à discuter, mais les problèmes de fond, souvent c'est délicat d'en parler à la machine à café. Et donc vont mener des actions qui sont des fois coûteuses, quand on parle d'environnement de travail, de travaux dans les locaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, hein, l'environnement de travail est très important.
Bien sûr, bien sûr.
Mais des fois, on ne va pas forcément traiter le sujet principal.
Le cœur du problème.
Et avec notre approche, on va dans un premier temps pouvoir prioriser ces activités.
Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ? Il en faut peu parfois pour être heureux, Julie. Par exemple, un Chief Happiness Officer ?
Par exemple, ça peut... En tout cas, nous, c'est vrai que ce qu'on prône, c'est le fait d'avoir une personne qui va être neutre et dédiée à orchestrer, on va dire, l'expérience collaborateur ou en tout cas tout ce qui tourne autour de l'épanouissement des collaborateurs dans l'entreprise. Alors ça peut être une personne ou un groupe de personnes. Nous aujourd'hui on est plutôt dans l'idée de faire vivre ça auprès des collaborateurs directement et d'avoir des groupes de collaborateurs qui sont porteurs de projets, comme ça ils deviennent acteurs aussi du changement dans leur entreprise. Donc ça marche vraiment bien, mais effectivement d'expérience pour l'avoir moi-même
été. Oui, parce que vous étiez effectivement Chief Happiness Officer, on peut l'expliquer, c'est-à-dire un petit peu directrice du bonheur, c'est ça?
Alors, si on le traduit textuellement, c'est directrice générale du bonheur. Titre que moi, j'assume assez bien. Après, c'est vrai qu'en France, le côté bonheur dans le monde de l'entreprise, ça paraît tout de suite un peu galvaudé, ça marche pas. En tout cas, l'idée à retenir, c'est l'idée de permettre l'épanouissement des collaborateurs. Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une démarche qui soit engagée, qu'on la suive, qu'on permette en fait à chacun de s'épanouir dans l'entreprise. Chacun va avoir des attentes différentes, mais si on lui donne un cadre qui va lui permettre de s'épanouir, tout va bien.
Vous avez à plusieurs reprises utilisé le mot, Franck, engagement. Qu'est-ce que ça veut dire, l'engagement d'un collaborateur ?
Très bonne question. Alors, l'engagement d'un collaborateur, on a trois niveaux souvent quand on fait des études. On a les collaborateurs dits engagés, ce sont des collaborateurs qui vont bien sûr réaliser leur mission, mais qui vont aussi être force de proposition au sein de leur entreprise, qui vont s'impliquer dans l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, parce que là, on a des termes qu'on utilise plus peut-être que le bien-être, c'est par exemple la qualité de vie au travail.
C'est ça,
Donc, ils vont s'impliquer dans la vie de l'entreprise, dans la culture de l'entreprise, dans le fait de transmettre cette culture en interne et en externe, d'accompagner les nouveaux entrants. Ensuite, vous avez les collaborateurs. Donc là, c'est à peu près 15% en moyenne dans l'entreprise. Ça fait peu. Ensuite, vous avez une soixantaine de pourcents de collaborateurs dits partiellement engagés. Ce sont des collaborateurs qui vont au même titre réaliser leurs tâches habituelles, qui sont sur leur fiche de poste, si on raisonne un peu strict, mais qui ne vont pas avoir cet effet de levier pour la culture d'entreprise. Et ensuite, vous avez les collaborateurs qui sont dits désengagés et qui vont avoir un effet négatif sur leurs collègues également, qui vont tirer vers le bas l'équipe ou la culture d'entreprise, et qui, s'ils en sont là, ce doit être pour des raisons, c'est pas une volonté. On se lève pas le matin en se disant, tiens, je vais aller au bureau à reculons, je vais faire un burn-out. L'idée, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui nous ont amenés là pour essayer de réengager ces collaborateurs-là, et ensuite accompagner l'entreprise pour que ça n'arrive plus. Alors c'est un peu utopiste la façon dont je le présente, mais améliorer cette expérience de travail, donc ça va toucher à la culture, ça va toucher au management. On parlait tout à l'heure de Chief Happiness Officer. Il y a un gros débat sur le terme chez les gens qui ne connaissent pas
Qui l'impact. Se font une idée.
Mais aujourd'hui en France, les Chief Happiness Officers sont des gens qui avant tout travaillent sur l'environnement de travail, les relations entre les personnes, le management, qui vont être capables d'aller voir des managers avec des verbatims, avec des vraies données sur les axes d'amélioration, et qui, quand on parle de baby-foot, c'est 0,1% du temps du Chief Happiness Officer. Et les after-work, c'est 1%. Les 99% autres, c'est vraiment des sujets de fond, et c'est souvent ça qui dérange. C'est qu'on va devoir toucher à des sujets de fond dans l'entreprise, sachant que nous, on n'est pas des donneurs de leçons, donc on va plutôt arriver avec un état des lieux, avec, comment dire, des verbatims, pour accompagner la direction et le management dans cette évolution, et que ça colle avec la culture.
Il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait une envie forte de la part de la direction, parce que c'est difficile, c'est aussi une remise en question.
Il faut qu'il y ait une envie très très forte de la part de la direction, il faut que ça soit vraiment impulsé par la direction, et il faut que le management, notamment le management de proximité, soit aussi un relais, soutien, parce que si le manager de proximité ne soutient pas la démarche,
ça ne marchera pas.
Voilà, ça ne fonctionnera pas non plus.
Vous restez avec nous, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et dans cette émission, nous sommes au cœur d'une vraie problématique, celle de l'entreprise et celle du bien vivre ou de mieux vivre en entreprise, avec nos invités Julie Clément et Franck Taveriti, qui ont créé Makiba, une start-up toulousaine spécialisée dans l'intelligence collective et l'expérience du collaborateur. On en parle également avec vous, Jean-Marie Ferenbach. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Doris.
Vous êtes au cœur également du problème, de la déontologie, vous êtes un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Que vous inspire, Jean-Marie, ces réflexions ?
Moi, je suis passionné par ce qu'ils nous ont déjà dit, parce qu'il me semble que dans beaucoup d'entreprises, les questions doivent se poser, pas forcément dans toute entreprise, hein, mais sous-jacent, dans certains services en particulier, je pense que ça pose question. Donc je suis plein d'admiration pour votre engagement dans ce sens. Une première question qui est un peu technique, celle-là. Vos clients, ce sont des entrepreneurs, et en fait, les bénéficiaires, ce sont d'abord des personnes dans l'entreprise. Bon. Comment ça s'articule tout ça ? Comment manager cette relation un peu compliquée d'avoir un client qui est une entreprise, une organisation, et puis avoir vos bénéficiaires qui ne sont pas les mêmes ? Même personne.
Julie, vous voulez répondre, hein ? Et Franck ensuite.
Alors, en réalité, l'entreprise, elle est composée avant tout d'êtres humains. Et donc, nécessairement, il me semble que quand on s'adresse à une entreprise, on s'adresse à des êtres humains. Donc, pour moi, ça s'articule de manière assez naturelle, c'est-à-dire que l'entreprise va avoir un problème, un besoin, mais pour répondre à ce besoin, il va falloir qu'on travaille sur les éléments qui la composent, c'est-à-dire les humains. Et une fois que les humains seront bien, plus satisfaits de leur expérience de travail, ils seront donc probablement plus performants, et plus fidèles et répondront ainsi aux besoins de l'entreprise.
Franck.
Alors pour compléter, effectivement, alors en tant que nous aussi chefs d'entreprise et avec des parcours d'encadrement d'équipe ou de direction de BU, c'est une question qu'on s'est posée et pour moi, il n'y a de bénéfice que si ça bénéficie à tout le monde. Donc effectivement, on ne travaille pas pour le bénéfice du collaborateur, mais on travaille sur le bénéfice de l'expérience collaborateur. Et le dirigeant et les managers sont aussi des collaborateurs de l'entreprise. Ils doivent aussi y trouver des bénéfices. Et l'entreprise y trouvera des bénéfices si elle réduit son turnover, donc si elle arrive à fidéliser ses collaborateurs, si elle arrive à attirer plus facilement, donc pour pouvoir gagner de nouveaux marchés. Donc tout le monde y bénéficie. Et l'objectif, c'est pas d'opposer, effectivement. Et dans notre démarche, on prend toujours en compte les enjeux et du collaborateur, parce que les collaborateurs ont des attentes, qu'on le veuille ou non, factuellement, ils ont des attentes, et des attentes qui sont en train d'évoluer avec les nouvelles générations, et qui encouragent les anciennes générations, enfin, on se met dedans, à faire évoluer leurs attentes en disant « ça fait 20 ans que j'accepte ça, si un jeune de 25 ans ne l'accepte pas, pourquoi l'accepterais-je ?»
Ouais, tout à fait.
Donc, les attentes évoluent, et côté entreprise, la direction, quel est son objectif ? C'est d'avoir une entreprise qui est performante et de mettre ses collaborateurs dans les meilleures dispositions pour être efficace. Donc dans notre démarche, on considère que le bénéfice, il est pour l'entreprise dans son ensemble.
Jean-Marie, une autre question.
Alors une autre question, par rapport à ce que vous proposez et de ce que vous exercez, est-ce que c'est quelque chose qui est plus facile à faire passer vers de petites entreprises de taille moyenne, ou est-ce que c'est encore possible vers des très grosses, à votre avis ?
Alors nous, aujourd'hui, on s'adresse essentiellement à des entreprises de taille moyenne. Trop petit, financièrement, ça peut être un peu compliqué à assumer, même si on peut faire des choses assez peu coûteuses et ponctuelles. Et trop grande, c'est trop long pour avoir un effet. Donc aujourd'hui, notre cible privilégiée, ça va être les entreprises qui vont avoir entre une cinquantaine de collaborateurs et jusqu'à 400-500 globalement. Voilà. Ça peut être moins, ça peut être plus.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que les très grosses entreprises auraient vraiment besoin de faire quelque chose ?
Elles en auraient vraiment besoin, mais c'est vrai que nous, à notre niveau, aujourd'hui, on est une petite structure, on est 5. Pour agir sur les très grosses entreprises, c'est compliqué. Non. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, on pourra arriver et révolutionner le quotidien chez Airbus. Qui sait ?
Pourquoi pas ?
Franck, quelque chose à ajouter ?
Julie a tout dit, effectivement, sur nos cibles, ce sont les PME, ce qu'on appelle PME et ETI. Je garde les organisations et le secteur public dans cette réflexion, puisque on considère qu'il y a énormément de choses à faire dans ces secteurs-là, qui vivent en ce moment des changements majeurs,
tout à fait.
Pour lesquels on n'a pas encore trouvé les clés d'entrée. Parce qu'il y a des difficultés, notamment souvent on parle de budget, mais on est au contact de beaucoup de collaborateurs dans ces structures-là, et il y a des réels besoins, et pas dans certaines administrations, bien plus que dans la plupart des entreprises. Donc je ne veux surtout pas les oublier. Maintenant, aujourd'hui, dans nos clients, on a majoritairement des entreprises, c'est-à-dire du secteur privé.
Voilà.
Après, effectivement, les grosses structures, aujourd'hui, ça reste délicat, parce qu'il y a une certaine inertie. On sent qu'il y a une volonté, qui aujourd'hui passe plutôt par des outils, par du numérique, plus que par du volet accompagnement, comme on peut le proposer, à voir dans les années à venir, comme le dit Julie, vers quoi on évolue sur cette démarche-là.
Est-ce que la transformation digitale des entreprises a modifié la donne? Vous allez me dire que oui, bien sûr. Et comment on arrive à s'y retrouver, nous, en tant qu'humains? Est-ce que là aussi, il y a un terrain énorme d'action pour vous?
Alors, sur la communication interne, notamment, c'est ce qu'on constate, nous, dans notre approche. On utilise aussi des outils, dans notre démarche. On peut préconiser des outils, sachant que, pour nous, l'outil est au service des équipes et au service de l'homme. C'est pas une contrainte pour l'utilisateur, c'est suite à un besoin exprimé, on va trouver un outil qui va répondre à son besoin. Et en communication interne, aujourd'hui, ce qu'on voit chez tous nos clients, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'outils de mise à disposition de l'information ou de communication, et pourtant si peu de communication interne efficace.
Voilà.
Donc aujourd'hui, c'est un des sujets principaux qu'on travaille, c'est comment faciliter les échanges entre les services, au sein des équipes, pour tout simplement gagner en efficacité, puisqu'on a mis en place des outils qui étaient censés apporter ce gain d'efficacité et qui sont aujourd'hui un frein à la communication.
Alors des robots, Julie, on a besoin d'humains?
Ben oui, on a besoin d'humains, parce que forcément, l'être humain a peur d'être assimilé à un robot, donc il réclame encore plus d'attention que ce qu'il pouvait y avoir avant. Donc oui, bien sûr.
Jean-Marie, une autre question.
Alors, parmi les paramètres sur lesquels vous jouez, dans votre approche, là, de la création d'une atmosphère différente dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des valeurs particulières que vous soulignez comme étant prioritaires ou très fortes par rapport, je dirais, aux besoins d'un gros levier, hein, pour faire changer les choses?
Bah oui, nous, il y a clairement l'écoute et la bienveillance qui sont des valeurs phares. C'est vrai que très souvent dans les entreprises, il y a des choses qui sont mises en place, mais qui sont souvent à l'initiative de la direction, des services de com, etc., qui vont se dire « Ah, il faut qu'on change ça parce que ça ne fonctionne pas, j'ai une super idée, on va faire comme si ». Et puis en réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout en phase avec les attentes des collaborateurs. Mmh. Alors que si on entre dans l'écoute, qu'on demande aux collaborateurs leur feedback, leurs attentes, qu'on est dans cette écoute-là, qui est primordiale aujourd'hui, on arrive à être bien mieux en phase avec les besoins. Donc oui, pour nous, l'écoute, c'est essentiel. Et le deuxième point, c'est la bienveillance. Créer un climat de bienveillance dans l'entreprise, c'est rassurant, ça crée un climat de sécurité, on se sent moins en danger, et donc on se sent plus à l'aise aussi pour s'exprimer. Donc forcément, si on veut avoir du feedback de qualité de la part de ses collaborateurs, il faut être dans ce climat de bienveillance, à tous les niveaux de l'entreprise.
Mais parfois, la bienveillance, il faut qu'elle soit bienveillante, parce que ça fait du bien aussi, parfois, de se dire les choses, non, vous ne croyez pas?
Alors, je vais répondre là-dessus et je voulais rajouter une thématique, mais la bienveillance ne veut pas dire béni oui-oui. La bienveillance, c'est effectivement de savoir se dire les choses, mais avec diplomatie, avec le tact nécessaire. Mais la bienveillance, c'est ça, c'est d'être à l'écoute, comme l'a dit Julie, à l'écoute de l'autre et dans un objectif d'améliorer les choses. Donc nous, on utilise souvent les accords Toltec, par exemple, c'est-à-dire que ta parole soit impeccable. Alors, je ne les connais plus tous les quatre en tête. Je le dis, et bon, c'est l'émotion. Mais l'objectif, c'est ça. La bienveillance, pour nous, c'est cette écoute, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir comprendre quelles peuvent être ses problématiques sans décider à sa place ou sans réfléchir à sa place. Et je voulais rajouter la confiance aussi aujourd'hui, et ça fait partie quand on fait des enquêtes auprès des nouvelles générations. Alors moi, je fais plus un focus sur les nouvelles générations. Julie, elle, est beaucoup plus large, et tant mieux, c'est aussi notre complémentarité. Quand on leur demande quelles sont leurs attentes, souvent on parle par exemple de salaire. Aujourd'hui, sur les moins de 30 ans, le salaire n'est pas dans les quatre premières priorités. Les premières, ce sont le sens au travail, pourquoi je fais ça, je veux bien le faire, mais je veux comprendre pourquoi je le fais, dans quelle chaîne je m'inscris, la reconnaissance, l'autonomie, la confiance. Là, on parle toujours pas de salaire. Donc aujourd'hui, ça fait aussi partie de notre accompagnement auprès des entreprises, de comprendre qu'il y a ce changement qui est en train de s'opérer, et comment y répondre.
Comment l'accompagner, oui.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur la notion de confiance, aujourd'hui, c'est hyper important. C'est vrai que là, tu en parles comme ça. Mais il y a l'idée que nous, quand on vient intervenir dans une entreprise, on apparaît comme le tiers de confiance qui est neutre, puisqu'on n'est pas On ne fait pas partie de l'entreprise, ni de la direction, ni quoi. Donc, on n'a pas cette couleur là, un peu inquiétante. Et on vient comme un tiers de confiance qui s'engage aussi à garder la confidentialité de ce qui nous est dit.
Bien sûr.
En tout cas, le côté anonyme. Mmh. Et de manière à pouvoir quand même engager des choses sans faire craindre aux collaborateurs, justement, des retours.
C'est ça, une remontée vers la direction. Voilà. Oui, tout à fait. Il faut les rassurer aussi.
Tout à fait. C'est votre rôle.
On a un gros volet communication, nous-mêmes, sur la démarche.
Vous n'êtes pas psychologue ?
Nous ne sommes absolument pas psychologues. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait comme psychologie ?
Jean-Marie, notre question ?
Alors, comment réagissent en général les managers ? Est-ce qu'ils vous suivent facilement ? Est-ce que vous avez à les convaincre difficilement ? Et quelle est votre expérience, justement, par rapport à cette problématique de avoir des gens plus heureux et travaillant, finalement, mieux ensemble, hein ?
Mais les managers, ils sont comme tous les autres, il faut les convaincre que la démarche va avoir du sens et va bénéficier à leur travail, à leur quotidien. Donc voilà, le collaborateur, le manager est un collaborateur comme un autre, puisque le manager, lui aussi, c'est un collaborateur de l'entreprise, il a aussi un chef au-dessus de sa tête ou plusieurs chefs, mais en plus, il doit gérer des équipes en dessous et s'assurer que ça produise comme ça doit produire, etc. Donc le manager, il faut arriver à le convaincre que la démarche va le servir lui et va servir ses équipes et que le tout va servir l'entreprise. Et tout simplement, une fois qu'il est convaincu de ça, on n'a plus de frein.
Franck ? Quelque chose à ajouter là-dessus ?
Tout est dit.
Arriver à convaincre, c'est la partie la plus difficile du travail, quelque part.
Mais c'est la partie évangélisation.
Ouais. C'est ça, ouais.
C'est la partie amont, c'est effectivement la partie amont. On a quand même, dans nos clients, des gens qui sont venus nous chercher parce qu'ils étaient déjà convaincus, en tout cas, de cet état de fait, et donc chercher une solution, ne la trouvant pas jusqu'à présent. Et effectivement, ça, c'est une partie de nos clients. Et une autre partie, on a eu à communiquer, à présenter, à expliquer la démarche, pourquoi, quel est l'intérêt, et surtout à faire prendre conscience que tout le monde va devoir changer. On en parlait tout à l'heure.
Ouais.
C'est le sujet qui est le plus délicat, parce que tout le monde veut le changement, mais il n'y a pas grand monde qui veut changer.
C'est ça, c'est difficile, ouais, tout à fait, de faire le premier pas. Comment on pourrait définir en quelques mots, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, le manager du futur ?
Le manager du futur, c'est celui qui permet à son collaborateur de s'épanouir et de faire ses tâches. Ce n'est pas celui qui dit ce qu'il faut faire, c'est celui qui prépare le chemin pour que son collaborateur puisse avancer. Aujourd'hui, on parle notamment de servant leadership. L'idée, c'est vraiment ça. C'est plutôt que d'être en haut d'une pointe, on est à la base d'un triangle inversé, quoi. Et on est celui qui permet l'épanouissement, qui permet le développement et qui permet la performance, plutôt que d'être celui qui l'induit.
Et le salarié du futur, Franck ?
Alors, déjà, le salarié du futur, il va y avoir beaucoup de changements, puisque aujourd'hui, on s'en rend de moins en moins vers des contrats de type CDI, CDD. On parle beaucoup aujourd'hui d'auto-entreprise, de freelance, donc ça relie aussi la partie management, où demain, une entreprise sera surtout une structure qui a des clients, qui a une force commerciale, qui a une vision, et qui va devoir agréger un ensemble d'intervenants, de collaborateurs, mais qui ne seront pas forcément salariés de l'entreprise, qu'il va falloir intéresser de façon différente, qu'il va falloir motiver de façon différente.
Engager.
Engagés de façon différente. On parle au travail aujourd'hui avec Hyperloop TT, que vous connaissez peut-être, qui travaillent sur
qui va faire ses premiers essais là dans quelques semaines
à Franck Casal. Ouais. Hyperloop, ils sont des centaines et pourtant il y a très peu de salariés. Ce sont des contributeurs. Et différents types de contributeurs. Certains vont être intéressés par des actions, d'autres parce qu'ils vont pouvoir récupérer une partie de leur publication ou de l'impact. Ce sont des gens qui sont partout dans le monde. Donc les managers chez Hyperloop TT, ce ne sont pas des managers comme on a connu jusqu'à aujourd'hui qui managent 10, 15 ou 20 salariés. Ce sont des gens qui doivent faire travailler ensemble des gens de plusieurs nationalités qui sont des fois sur des sites différents ou des pays différents et qui vont vont quand même devoir à la fin produire un produit commun. Donc le manager de demain et le salarié de demain, il va y avoir de grands changements sur les années qui arrivent.
Donc on va avoir besoin de vous, on va vous appeler.
Dans l'idéal, on nous appelle, oui.
N'hésitez pas à nous appeler.
On rappelle l'adresse de votre site internet.
www.makiba.fr. Makiba, M-A-K-I-B-A.
Merci beaucoup Julie, merci Julie Clément, merci Franck Taveriti. On va citer le nom de votre associé également, puisque vous êtes trois au fondement de l'entreprise.
Exactement, on est trois cofondateurs, Franck et moi, et Nicolas Fabriès, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui a participé au fondement de la boîte.
Qui a la chance d'être sur les pistes.
Ouais. Alors, c'est pas bienveillant du tout. Merci Jean-Marie Fehrenbach. Merci à vous de
merci
nous écouter
beaucoup.
Toujours plus nombreux. Écrivez-nous, n'hésitez pas, contact@radioprésence.com. Vous pouvez également nous suivre et nous retrouver sur YouTube, émission Le Goût d'Entreprendre.
Le Goût d'Entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des Entreprises et des Professionnels de Midi-Pyrénées.